Vous entendez un bruit étrange et apercevez quelque chose de terrible. Êtes-vous prêt à connaître la vérité? La chaîne télé, Témoin, c'est bon en crime. Débrouillé dès le mardi 9 avril.
On en a parlé de la situation qui est inquiétante, particulièrement pour le personnel du système de santé, avec la pénurie anticipée. J'ai envie de dire, peut-être même voir annoncé là par le premier ministre hier, qui nous disait que pour certains éléments du matériel, on pense évidemment au fameux masque N95, qu'on a des réserves pour une durée de 3 à 7 jours. C'est très, très, très préoccupant. On va en discuter avec le docteur Louis Godin, qui est président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, la FMOQ. Docteur Godin, bonjour.
Oui, bonjour, Monsieur Trudeau.
J'ai envie de vous demander, bien simplement, comme première question, quel est l'état des troupes, le moral, comment ça se passe de votre côté?
Ben, écoutez, d'un côté, je veux dire, les médecins sont très, très mobilisés là à donner les services et on réorganise les pratiques, que ce soit dans nos bureaux, que ce soit dans les établissements, les différentes installations. Les médecins sont très engagés à faire face à ce défi-là, mais en même temps, sont un peu comme l'ensemble de la population et particulièrement les gens qui donnent les soins, ils sont un peu inquiets de ce qui va se passer et naturellement toute la question des approvisionnements de matériel de protection est une inquiétude importante chez eux parce qu'ils se disent on va aller donner des soins mais on veut au moins avoir la protection nécessaire pour aller les donner. Je pense que c'est une question très légitime pour eux.
Ben oui.
Ce sont des êtres humains, ils ont des familles, ils ont des enfants, donc ils veulent être protégés. Et dans certains secteurs, on a des enjeux supplémentaires, particulièrement dans les établissements de longue durée, où on sait que les médecins qui travaillent là sont souvent parmi nos plus âgés. Donc, ce sont des gens qui sont potentiellement plus à risque. Donc, toute la notion de protection est un enjeu supplémentaire.
Docteur Godin, on est ensemble bien prudent là, puis je pense que tous les acteurs concernés font attention. Personne ne veut faire de partisanerie ou de politique ou de faire des reproches pour le plaisir de faire des reproches. Mais il reste que la question de la pénurie du matériel. Quand on parle aux gens sur dans le milieu, sur le terrain, vous êtes évidemment très, très bien placés. Moi, il y en a plein qui m'ont écrit. Ça faisait au moins 10 jours, si pas plus, que les gens dans le milieu disaient « on va en manquer, on en manque déjà, on va en manquer ». Il y avait comme un décalage là entre le discours sur le terrain et le discours rassurant gouvernemental quand même.
Moi, je pense qu'hier, lorsque le premier ministre a été clair sur les faits, c'était une position très responsable qu'il prenait. Parce que c'est évident que ce discours-là, qui pour beaucoup de gens sur le terrain semblait un peu discordant, on leur disait d'un côté, non, il n'y a aucun problème, on en a. Et de l'autre côté, ce qu'ils vivaient sur le terrain, c'était pas cette réalité-là. Donc, ça crée un sentiment d'incertitude, de confusion. Et dans une situation comme on vit actuellement, il faut minimiser ça. Il faut que les gens, particulièrement les gens qui sont sur la ligne de front, sachent bien c'est quoi l'état de la situation.
Ah oui.
Parce que c'est pas des gens qui sont naïfs, là. Ils le voient bien. Et l'autre élément, je veux dire, que l'on a vécu, c'est les situations qui étaient parfois inégales d'un milieu à l'autre qu'on nous rapportait, mm-hmm. où des endroits semblaient avoir une abondance de matériel de protection, alors que d'autres semblaient en avoir beaucoup moins. Et ça a créé beaucoup, beaucoup, beaucoup de confusion sur le terrain, mais aussi d'inquiétude, parce que les gens se disaient, mais qu'est-ce qui est vraiment la situation à l'intérieur de ça?
Ouais.
Là, on sait que, et c'est sûr qu'on est convaincu que le gouvernement fait tout en son pouvoir pour régler ce problème d'approvisionnement-là. Mais en même temps, dans une période comme ça, il faut les utiliser de façon très rationnelle, parce qu'il y a des situations où on aura absolument besoin de ce matériel de protection-là et il faut l'utiliser selon les normes pour pas se surprotéger lorsqu'on n'en aurait pas besoin, de pas en utiliser lorsqu'on n'en a pas besoin, pour s'assurer que quand on en a vraiment besoin, on les aura.
Et la ministre McCann tient beaucoup ce discours-là, mais j'ai l'impression que ce que vous dites là est totalement vrai. Il ne faut pas qu'il y ait d'exagération, qu'il n'y ait pas d'abus. Mais j'ai un petit peu de difficulté avec une espèce de narratif là, qui semble justifier, expliquer la pénurie par uniquement un abus du milieu ou des vols. Et tu sais,
je pense pas. Là. Écoutez, on est dans une situation qui est vraiment unique là, et probablement qu'à chaque jour, chaque gouvernement, chaque ministère de la Santé un peu partout dans le monde court après les équipements et les approvisionnements. Oui. On l'a clairement montré, on est dépendant de l'extérieur au Québec pour ce matériel-là, du moins en très grande partie. Et donc, on doit aller s'approvisionner ailleurs. Et tout le monde en cherche. Hein. C'est lorsqu'on écoute les nouvelles, et vous êtes aux premières loges de ça, là, je veux dire, vous nous transmettez ces informations-là, on voit que partout dans le monde aujourd'hui, on court les masques, on court les ventilateurs, on court le matériel de protection, parce qu'on est dans une pandémie mondiale. On n'est pas dans une situation où tu peux regarder chez ton voisin, puis lui, il n'a pas le problème, puis il peut dire « je vais aller t'aider ». Tout le monde est pris avec le même problème d'infection. Et naturellement, la question des équipements de protection, elle est au cœur de tout ça. Donc, c'est une situation qui n'est pas facile à gérer. Elle ne reporte certainement pas uniquement sur l'usage abusif. On doit simplement l'utiliser plus parce qu'on en a des cas. Là. On voit les cas exploser à chaque jour. Là.
Docteur Godin, je vous pose une question, parce que ce matin, dans ma chronique dans le journal, j'en ai parlé à l'émission, je dis qu'il y a des questions qu'on est en droit de se poser, de poser au gouvernement. Parmi celles-ci, il y a la question des protocoles qui sont mis en place, parce que la ministre de la Santé dit depuis plusieurs jours, lorsqu'elle avait son discours rassurant notamment, disait, écoutez, il y a des protocoles qui sont mis en place, c'est important de respecter ces protocoles-là. Si on le fait, on aura suffisamment de masques. Or, les protocoles qui ont été mis en place, à savoir quel travailleur doit porter tel type de masque selon le type d'information. Est-ce qu'ils ont été édictés en fonction du matériel qui était disponible, donc pour répondre au matériel qui était disponible, ou en fonction des risques réels à atténuer dans tous les cas?
Ben, écoutez, notre opinion là-dessus, c'est que ces majorités de ces protocoles-là ont été faits à partir de données scientifiques. Et c'est principalement l'INSPQ qui est le maître d'œuvre là-dedans avec ses experts qui dit dans telle situation, on doit utiliser tel masque. Un des éléments, je veux dire, qui joue beaucoup, c'est dans quelle étape de la pandémie on est. Mmh. Il y a deux semaines, on était surtout dans une situation où les cas arrivaient suite à des contacts avec des gens qui revenaient de l'extérieur. Là, on sait que dans une grande majorité de régions, ce n'est plus le cas, là. Je veux dire, on est vraiment rendu dans un épisode de transmission communautaire. Donc, s'il y a deux semaines, on disait un patient se présente, il est à risque parce qu'il vient de l'extérieur, il ne vient pas de l'extérieur, donc ce n'est pas un patient qu'on doit considérer à risque. C'est sûr que lorsqu'on voit ces patients-là, le niveau de protection n'est pas nécessairement le même, particulièrement lorsqu'on voit ces patients-là dans nos bureaux. Lorsqu'on arrive dans une phase de transmission communautaire, comme on est actuellement dans beaucoup de régions, il est clair que le patient qui vient devant vous, même s'il n'est pas allé en voyage au cours des 14 derniers jours, il est à risque, là, parce qu'il a pu contracter la maladie dans la communauté, je veux dire, que ce soit aller à l'épicerie ou aller côtoyer des gens à l'extérieur. Donc, on est dans cette phase-là. Et là, naturellement, les mesures de protection, les recommandations vont varier dépendant de la phase où on est, comme elles varient, à savoir, est-ce que vous voyez un patient dans votre bureau comme médecin lorsqu'il n'y a pas de propagation communautaire, ou lorsque vous voyez ce patient-là dans une salle d'urgence et que vous devez faire des manœuvres beaucoup plus importantes au niveau des voies respiratoires parce que la condition du patient l'exige. Donc, c'est tout ça qui varie dans le temps et qu'on doit mettre à jour continuellement. Puis ça, faut bien informer nos professionnels de la santé, parce que c'est sûr que l'enjeu de bien les protéger, c'est fondamental. Je veux dire, il ne peut pas y avoir de demi-mesure là-dedans. On doit bien les protéger avec le matériel qu'ils ont besoin.
Dernier point que je veux aborder avec vous, Dr. Godin, c'est l'aspect éthique. On sait, s'il y a bien une profession où les questions éthiques, morales sont importantes, c'est en médecine, les médecins qui prêtent le serment d'Hippocrate. Et là, il y a ce questionnement-là qui commence à être véhiculé, à circuler, à savoir, ben, on fait quoi si on doit traiter un patient qu'on suspecte fortement d'avoir la COVID-19 ou qui a la COVID-19 et qu'on n'a pas les outils nécessaires, les protections nécessaires par disponibilité ou quoi que ce soit. comment les médecins doivent se gouverner. Et le premier ministre s'est vu poser la question hier et il a dit jamais j'accepterai que le personnel des soins de santé se mette en danger pour traiter les gens. Mais en même temps, lorsqu'on nous dit il reste de 3 à 7 jours de matériel disponible dans certains cas, cette question-là, ce questionnement-là, il est réel, il est pertinent, là.
Ben, il est clair que c'est un questionnement, mais en même temps, il y a peut-être des façons de faire si la situation se détériorait, que l'on pourrait pousser un petit peu plus. On l'a déjà fait. Par exemple, depuis un certain temps, on utilise beaucoup la téléconsultation. Pourquoi? Tout ce qu'on est capable de faire à distance sans être en contact direct avec le patient, on le fait. C'est une façon d'utiliser moins de matériel de protection. Si demain matin la situation devenait encore plus importante, il y a peut-être certaines activités qu'on devrait encore essayer de faire différemment. Les contacts, par exemple, dans nos bureaux, dans nos groupes de médecine familiale, plutôt que se servir beaucoup plus d'un pré-filtrage téléphonique. C'est tout ça qu'on doit mettre en place. C'est une situation qui est évolutive et pour garder, je veux dire, ultimement, le matériel que l'on a pour les situations les plus critiques et d'être capable de délester, je veux dire, tout ce que l'on peut délester dépendant de l'état de situation du matériel. Et en espérant, je veux dire, qu'on ne se rende pas, je veux dire, dans le fait où on n'en aurait plus du tout, là. Et je ne pense pas, là, qu'on va se retrouver dans cette situation-là. Je veux absolument pas, là, non plus tomber dans l'alarmisme aussi, là, d'un autre côté. Tout le monde est conscient de la situation. Je veux dire, tout le monde travaille en ce sens-là. Et à un moment donné, je vous dirais, on va toujours tenter de protéger nos gens le plus possible et en espérant que jamais on se retrouvera dans une situation où il y avait des situations où absolument on doit intervenir et que des gens n'aient pas de matériel de protection. On espérera qu'on se rendra pas là et je ne pense pas qu'on va se rendre là.
Espérons-le, docteur Louis Godin, président de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec. Merci beaucoup de nous avoir parlé. Bonne chance pour les prochains jours.
Merci, au revoir.
Merci.